de ma jeunesse, une fille qui joue. C'est pas possible.
L'émission des 4e F du collège Pierre Sémard.
L'équipe de la 4e C. Tire devant. Non, c'est ma coupe. Tu m'as tiré le but de la 4e B. Ils ont enfoncé le clou. 4-1.
Coupé.
Alors bonjour, nous sommes une classe de 24 élèves composée de 13 garçons et 11 filles. Étant donné que les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris cet été, nous avons obtenu le statut de classe olympique. Nous avons été choisis car nous sommes dynamiques et sportifs.
Depuis la rentrée 2023, nous avons pris part au projet Marathon Radiophonique en étant accompagnés de Léa Capuano, qui est journaliste, et Julien Martin, qui est médiatrice à Radio Campus Paris.
Dans le cadre de ce projet, nous avons participé à plusieurs sorties, notamment à Radio Campus Paris, au Cirque du Parc de la Villette, à la Philharmonie, à l'Accord Arena et à l'Écran Nomade de Bobigny. Nous avons également pu rencontrer des professionnels du milieu du sport, comme Marie-Fatou Gaï, qui est journaliste et commentatrice sportive sur Winsport.
L'objectif de ce projet était de découvrir le milieu du sport et surtout de préparer l'enregistrement d'une émission de radio. Nous avons donc découvert le métier de journaliste sportif en faisant des micro-trottoirs, en faisant des interviews et en rédigeant des chroniques. Nous avons aussi découvert la dimension technique et l'enregistrement d'une émission radiophonique.
Générique. Le marathon radiophonique.
De ma jeunesse, une fille qui joue. C'est pas possible.
L'émission des 4e F du collège Pierre Sémard.
De la 4e B. Tire devant. Non, c'est ma coupe. Tu m'as tiré le but de la 4e B. Ils ont enfoncé le clou. 4-1.
Au sommaire de cette émission, des micro-trottoirs sur la Coupe du Monde de 98, sur les valeurs sportives, sur les Louvres, des chroniques, des lectures, une interview de la journaliste sport Marie-Fatou Gaï. On commence tout de suite avec une interview des Louves, l'équipe féminine de rugby de Bobigny, dont fait partie Madame Sylvestre, et des filles de la section rugby du collège.
Ok les filles, maintenant, là, on va vous regarder toutes là. On se serre. Parce qu'aujourd'hui, tout va être différent. Je vous le dis, aujourd'hui, tout va être différent. On a parlé de creux, rappelez-vous, en début de semaine, d'accord? Hier, on a fait une réunion, elle a parlé de creux. Mais dans un creux, on ne peut que remonter, d'accord? Et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on en sort. Regardez-vous, on est toujours debout. Malgré tout ce qu'on a traversé, on est toujours là. On a parlé d'exigence. Chacune, et tout le monde l'a dit, hein, tout le monde l'a avoué. Et c'est la clé aujourd'hui. Moi, je vous le dis maintenant. Maintenant, là, je mets 100% de mon corps, mon âme et mon cœur aujourd'hui. Ok? Et je sais que tout le monde est capable de le faire. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Ok? Il faut y aller maintenant. J'en ai marre, moi, qu'on parle de nous comme si on était des merdes, là. Putain, mais regardez-vous. Vous êtes uniques, bordel. Là, maintenant, on va se battre aujourd'hui. On va se relever. On va plaquer le plus vite possible. Pour toutes les filles qui ne peuvent pas porter de maillot aujourd'hui. C'est maintenant, les filles. Hein. Deux valeurs. Je vous demande juste deux choses aujourd'hui. Ok? L'agressivité. C'est la marque de fabrique de cette équipe depuis 20 ans. 20 ans cette année. D'accord? C'est nous, ça. L'agressivité. Là, je veux qu'elle voit des vagues noires et rouges toute la partie. Qu'elle serre les dents à chaque fois qu'elle nous voit arriver. Et là, la fameuse. La fameuse, c'est nous. Putain, vous êtes... Putain, on n'est pas une super, des super amis en dehors du rugby. Mais qu'est-ce qu'on s'aime, putain. Qu'est-ce qu'on aime jouer ensemble. Il n'y en a pas une qui n'a pas joué l'une avec l'autre. Alors vous allez vous serrer. On va se battre pour celle qui est à côté, d'accord. Aujourd'hui. Et là, on va transcender vous, bordel. C'est à nous, maintenant. Allez, les filles, c'est à nous. Allez, allez.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous présenter également votre parcours?
Bonjour, je m'appelle Sienne et je suis de la section rugby.
Bonjour, je m'appelle Romane Sylvestre et je suis joueuse à l'AC Bobigny 93.
Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer le rugby?
Ce qui m'a poussé à faire le rugby, en fait, c'est je voyais ma grande sœur faire du rugby. Et je regardais des émissions de rugby aussi. Et du coup, c'est ça ce qui m'a poussé à faire du rugby.
Alors moi, ce qui m'a poussé à faire du rugby, c'est que je viens d'une école où tout le monde joue au rugby le samedi après-midi. Et donc du coup, un jour, j'ai dit, moi aussi, je veux venir avec vous. Et depuis, je suis restée.
Pourquoi le rugby et pas un autre sport?
J'ai pensé à faire un autre sport, mais j'ai pensé à faire du foot, mais en fait, non.
Alors moi, au début, j'ai essayé la gym et ça ne me convenait pas du tout. Moi, j'avais besoin d'un sport collectif et un sport de contact, un sport de combat et aussi un sport d'extérieur pour pouvoir me dépenser. Donc du coup, le rugby cochait toutes les cases.
Quel est votre pire et meilleur souvenir au rugby ?
Mon meilleur souvenir, c'est quand on a gagné tous nos matchs. Et les mauvais souvenirs, c'est quand on perd tous nos matchs.
Alors moi, mon meilleur souvenir au rugby, c'est lorsqu'on a été championne de France quand j'étais au lycée, avec mon équipe du lycée. Et là, c'était vraiment extra. Et mon pire souvenir au rugby, c'était il y a quelques années, un tournoi à Montpellier où il faisait très, très, très froid, où il y avait beaucoup, beaucoup de pluie. Et ça a été très long et j'ai eu très froid. Et là, c'était vraiment très dur.
Est-ce qu'à votre niveau, on peut continuer à progresser ?
Bien sûr, si vous vous entraînez beaucoup plus et plus souvent.
Alors oui, bien sûr, même à très haut niveau, on peut toujours continuer à progresser. Il y a toujours quelque chose à faire d'un point de vue individuel ou collectif. Le rugby, ça demande d'être rapide, ça demande d'être fort, ça demande d'être technique, ça demande d'être tactique, ça demande tellement de choses qu'on pourrait travailler tous les jours, qu'on aurait encore des choses à travailler.
Comment trouver un équilibre entre votre vie personnelle et le sport de haut niveau ?
Alors, il faut bien s'organiser. Moi, j'ai ma vie personnelle, mais j'ai aussi mon travail. Donc, je suis prof de PS. Actuellement, j'ai 3 entraînements muscu, 3 entraînements terrain, 30 entraînements de technique individuelle. Donc, ça fait beaucoup d'entraînements dans la semaine. Ça demande de l'organisation, de préparer ses cours en amont, de préparer ses cours dans le train quand on part en déplacement, etc., etc. Ça demande, c'est de l'organisation, un emploi du temps bien chargé.
Avez-vous déjà connu des disputes au sein de l'équipe et comment les avez-vous surmontées ?
J'ai eu beaucoup de disputes avec mes camarades et je me dis... Vaut mieux s'entraîner pour moi que pour les autres, en fait. Comme ça, je m'améliore encore plus et je laisse le négatif derrière mon dos, en fait.
Alors nous, même si on est une équipe de haut niveau et même si on est une équipe d'adultes, on va dire, évidemment, on a toutes nos vies et évidemment, il y a des soirs où il y en a une, elle a fait un truc et... ça nous saoule, ou il y en a une, elle ne comprend pas, alors que ça fait 12 fois qu'on a expliqué et ça nous saoule. Donc des fois, ça clash. Mais l'important, en fait, c'est de désamorcer le conflit direct avec la personne concernée. Pas la peine d'aller parler à d'autres personnes. Il faut, on règle son conflit directement en communiquant avec les bons mots. Et généralement, ça se résout très rapidement.
Est-ce que Madame Sylvestre, vous pourriez donner des conseils à CM ?
Alors, les conseils que je pourrais donner à Siem, c'est qu'elle continue. Elle s'investit avec sérieux dans la section rugby. Elle lâche rien. Elle a un bon état d'esprit. Et donc, il faut surtout jamais rien lâcher et continuer à travailler.
Merci beaucoup au Louvre et à Madame Sylvestre ainsi qu'à Siem. Vous pouvez venir les voir jouer à leur prochain match. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook AS Bobigny 93 Bobigny. On revient après une petite pause musicale.
Celui qui les tuera.
Le OGQ7 carré devant Delilah. Oh nanana. Elle a le Birkin bag plein de Colombiana. Oh nanana.
Elle m'a dit baby, je suis prête à
faire du sale pour nous. Oh na na na. Elle a le Birkin bag de Colombiana. Oh na na na. Panama. 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 Hey, la moula m'appelle sur mon cellulaire. Pack de balles dans ta visière. Ça fait longtemps que je ressens plus la pression. Turbosport, injection. Hennessy, Hennessy, Hennessy. Les bonnes affaires font les bons ennemis. Elle sait que j'ai pas le temps pour qu'on dialogue. J'ai craché une école dans cette salope. Poking transporteur. J'arrive avec un hippodrome dans le moteur. On a les masques et les glocks et les chargeurs. On voit les autres si je descends pas dans un quart d'heure. Non, non, non. Ma go, c'est une finale de Champions League. Et si les choses compliquent, est-ce que je pourrais compter sur toi? Réaudit que tu sais, carré devant Delilah. Oh na na na. Elle a le Birkin bag, plein de Colombiana. Oh na na na. Elle m'a dit, baby, j'suis prête à faire du sale pour nous. Oh na na na. Elle a le Birkin bag, plein de Colombiana. Oh na na na. Panama.
Générique. Le marathon radiophonique
de ma jeunesse, une fille qui joue. C'est pas possible.
L'émission des 4e F du collège Pierre Sémar.
L'équipe de la 4e C. Tire, tire devant, devant. Non, c'est ma coupe. C'est ma tirée. Le but de la 4e B. Ils ont enfoncé le clou. 4-1.
Vous venez d'écouter Panama de Kariste en feat avec Hamza.
Vous êtes bien à l'écoute de Marathon Radiophonique sur Radio Campus Paris. Place aux souvenirs de sport, quand nous sommes allés visiter l'exposition sur Zidane au parc de la Villette, nous en avons profité pour réaliser un micro-trottoir sur les souvenirs liés à la Coupe du Monde de football 1998. Zinedine Zidane était une des stars de l'équipe de France. C'est d'ailleurs grâce à lui et ses deux buts que la France remporte la Coupe. Nous étions pas nés, mais certains d'entre nous l'ont vu. Ils vous racontent.
Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Ryan. Je suis avec mon collègue Karim.
Nous sommes des élèves du collège Pierre Sémar à Bobigny. Nous sommes ici à la Philharmonie de Paris pour voir un exposé sur Zidane et vous parler un peu du match en 1998 qui oppose la France au Brésil.
Match fini 3-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France finit sacré champion du monde pour la première fois. Doublé de Zidane et un but d'Emmanuel Pucci. Le match qui s'est passé en Stade de France. Un très bon match avec R9, avec ses nouvelles marquillages qui étaient sorties. Et le match qui était très 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 beau à voir.
Mais nous n'étions pas nés, hein. On n'était pas nés nous.
Vous allez dire comment on a vu tout ça. RMC Sport, ils ont fait un reportage sur ça. Ils ont interrogé Emmanuel Petit. Qu'est-ce qu'il a ressenti pour quand il a marqué ce but. Et voilà.
Maintenant, c'est au tour des passants de nous raconter leurs souvenirs.
12 juillet, je regardais la finale comme tout le monde.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce match?
Écoutez, c'est comme disait Thierry Roland à la fin, quand on a vu ça, on peut mourir. La France championne du monde, c'était la première fois. Et la génération précédente n'avait pas réussi à le faire, celle-là l'a réussi. Voilà.
Vous vous rappelez du score?
3-0.
Et les buteurs?
Comment? Ah oui, alors c'était deux buts de Zidane de la tête. Il y avait un corner qui était vu de la droite, un corner qui était vu de la gauche et Petit qui était parti en contre. À l'époque où la France était à 10. C'était un très très grand moment.
J'avais 2 ans, donc je m'en souviens pas très bien, on va dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose avec lequel on a grandi, quoi. Donc on l'a vécu un peu en décalé, on va se dire.
Pour le coup, j'étais pareil, j'avais 3 ans, donc j'étais très petit. J'en ai entendu parler énormément en grandissant. J'ai pas de souvenirs, je l'ai pas vu. Mais je sais que c'était un match mythique et que c'était assez exceptionnel. Donc j'ai pu grandir avec l'idée de ce que c'était. Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Ah, bah, on m'a dit que ce match était mythique, que c'était un pas pour la France, que c'était la folie aussi. Après, c'était la fête sur les Champs-Élysées. C'était vraiment, vraiment un jour, un super jour pour les fans de foot, mais aussi pour ceux qui soutenaient même de loin l'équipe de France.
Bah, le match en lui-même, il y avait eu beaucoup de rebondissements parce qu'on ne savait pas si Ronaldo jouerait. Il a fait un malaise dans la journée. C'était la grande vedette à l'époque, parce que Zidane n'était pas encore le Zidane qu'il est devenu après. Puis c'était un match que tout le monde attendait parce que dès le tirage au sort de la Coupe du Monde, tout le monde rêvait d'un France-Brésil en finale, qui était l'affiche de rêve. Et bah, on s'est retrouvé un 12 juillet 98 avec un France-Brésil et en plus avec un 3-0 qui était inespéré. Personne n'aurait misé le moindre euro sur une victoire 3-0 de la France contre le Brésil. Donc ça reste un très très grand moment. Puis comme c'était la première étoile, c'est celle à laquelle on pensera le plus, même si la deuxième a été très belle aussi, et peut-être même plus aboutie, puisque l'équipe de France était peut-être plus complète. En tout cas, cette première Coupe du Monde, cette première étoile, ça reste un grand moment.
Alors, j'étais à Drancy, sur l'espace culturel, où ils avaient mis un grand écran à l'époque. On avait la chance. J'étais avec ma copine, j'avais 15 ans. Et quand la France a gagné le match à la fin, la finale, on a arrêté toutes les voitures sur l'avenue Henri Barbus, à Drancy sur les 4 routes. On a fait la fête, enfin, on était heureux, on sortait les gens des voitures, on se sautait dans les bras, enfin, c'était génial. Franchement, vous n'avez peut-être pas connu parce que du coup vous êtes trop jeune, mais on avait la Coupe du Monde chez nous, on avait la chance d'avoir des villages sportifs, tout était sur Saint-Denis, il y avait comme des kermesses, des grands bonhommes qui s'agitaient, il y avait plein d'animations pour les jeunes de 15 ans, hein, en tout cas pour moi. Ah mais on était sûr de gagner, bien sûr, on soutenait la France, moi la génération 90 c'est le Black Blamber quoi, donc on était à fond dedans, on était tous solidaires, on était tous derrière nos bleus, on était toutes amoureuses de Thierry Henry, de comment ils s'appellent, Trezeguet, voilà c'était notre jeunesse quoi, c'était les beaux gosses de l'équipe, bon Zidane n'en parlons pas, lui c'était plus l'ancien mais sur lequel on pouvait compter et on était toutes derrière les bleus quoi.
On a aussi rencontré Malika, poétesse des rues, qui nous dit un poème, véritable hymne au football.
Mes enfants, à tout ce qui nous aide à battre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres, ce qui permet les rencontres pour nous faire naître et continuer d'être. L'art et la culture dans sa diversité aussi. Il suffit d'un champ de blé, de vigne, d'un poème. Les gens sortent et grâce aux rencontres, on saisit que nos différences sont des perles, que notre commun est le fil et que le fil a besoin des perles, tout comme les perles ont besoin du fil pour faire le collier, parce que chaque perle, mon fils, elle va encore plus quand elle est dans son collier, car ce sont ses compagnes qui la font briller, tout comme elle les fait briller de cet éclat si particulier. Ne balayons pas nos différences, mais pour ne pas les balayer, et c'est grave. Il suffit d'un champ de blé, de vigne, d'un poème, un foot. Les gens se rencontrent, et quand, entre autres, il est noir, blanc, grand, petit, femme, ça devient entre autres, mais il est d'abord un être humain. Alors, et le foot, ça permet les rencontres, et tant mieux pour balayer nos préjugés qui aveuglent notre regard et qui empêchent notre vue de voir l'être pour continuer d'être, et qui nous fait toujours dire bonjour à l'avoir, et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Alors, ouvrons nos portes, en plus du travail physique et le plaisir de jouer, il y a aussi les rencontres. Sans ça, il n'y a pas de rencontres.
Elle nous déclame aussi un poème qu'elle a écrit sur la fraternité.
Suite à la marche d'Idéburn, il y a longtemps, Aziza par sa langue, le rebeu, la jeunesse, mes enfants, est à chercher dans les caves et les cages d'escalier. Cages d'escalier, antichambre par les demandes imposées, loge du comédien pour souffler, mais aussi académie où le dictionnaire s'est matérialisé comme une génération spontanée. Torturés, lavés, cassés, inventés. Les mots dans les caves se sont réfugiés. Une sonorité est née, musique déjà récupérée. J'y étais, des mots. Tiens, il suffit d'un petit mot, comme quoi c'est dans le petit que se cache le grand. Sans le petit, Le grand n'est rien, il suffit d'un petit mot qui paraît rien pour que tout s'arrête. Des mots de guetteur annonçant les arrivées, les départs sont les premiers imprimés. Petit à petit, l'appartenance à une bande s'est affirmée. Les mots situation ont fait leur apparition. Les mots émotion ont fait leur propre description. Le rebeu est né de la rencontre des cités et de la mare sur Paris. Il sera plus tard un nouveau français fait de poésie. Aragon et Saadi sur Elsa Triolet penché, Saint-Augustin et Razali sur le chemin de la vérité engagée, Michelet saluant Ibn Khaldoun, l'histoire à notre portée, Verlaine et Mohammed s'échangent rimes par dunes interposées, le chemin des égarés et les millénies s'en enlivrent de chevet, Mandela et Che Guevara sont nos héros d'aujourd'hui, mais c'est dans les cages d'escalier, sous les marches dégradées, nos rêves d'enfants sont enterrés. Merci. Quand je finis ce poème, je dis alors mes enfants, si on veut retrouver le trésor de notre enfance, on a intérêt d'essayer d'y aller les déterrer pour nous aider à mieux nous retrouver à travers nos diversités d'identités qui ne peuvent être que le fruit ou la lumière de notre humanité, afin que notre énergie cesse de continuer d'être là, à casser, à détruire, mais à construire. Et là, on sait que sans nos différences, il ne peut pas y avoir d'humanité. En balayant nos différences, c'est une autre manière d'écraser notre humanité. Et si la liberté existe, c'est pour permettre à nos différences de continuer d'être.
Vous pouvez découvrir tous les poèmes de Malika Kadri sur YouTube.
Zidane, c'est aussi le joueur qui a mis un coup de tête à Marco Materazzi pendant la Coupe du Monde 2006. On s'est demandé comment cela avait pu arriver et on a débattu en classe pour savoir quelles émotions il avait pu ressentir. Nous avons aussi cherché dans notre mémoire des souvenirs liés au sport et les valeurs que l'on a apprises au cours du temps. Sadman, Velvin et Wissem vont en lire quelques-uns. Ce sont des textes écrits par d'autres camarades de classe.
En cinquième, j'ai joué au foot et on est arrivé en finale. Eh bien, il y avait beaucoup de joueurs et joueuses, mais on est quand même arrivé en deuxième. J'ai eu beaucoup d'émotions, comme la joie, mais aussi de la tristesse. De ne pas gagner la finale, ce qui m'a vraiment plu, c'est que pour une fois, j'ai eu un trophée et une médaille. Je suis une fille et je voulais prouver à tout le monde que j'aimais le foot. Je ne sais pas trop y jouer et certains m'ont dit, même si mon équipe a fini en deuxième place, je ne méritais pas ma médaille. Je me suis senti jugé.
Un jour, j'étais à la piscine, j'allais sauter du plus haut plongeoir. J'ai eu peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai sauté. Ça m'a traumatisé. J'ai eu l'impression de sauter d'un bâtiment. Je me suis dépassé, j'ai fait preuve de mental.
Lorsque j'avais 10 ans, j'ai vu le joueur de foot Marcelo casser la jambe d'un autre joueur. Ensuite, quand ma petite sœur a voulu jouer au foot, j'ai eu peur qu'elle se fasse mal. Je lui ai arraché le ballon, elle a pleuré et j'ai été punie. Moi-même, je ne voulais plus aller au foot. Mais j'ai fini par y retourner grâce aux encouragements de ma mère et ma persévérance.
C'était un jour d'été, j'étais en CE2. Je suis allé à la piscine avec ma classe, il fallait plonger, sauf que j'avais peur. À un moment, j'ai senti que le monde poussait. J'ai vu c'était ma maîtresse, je n'étais pas prête, j'ai coulé, le maître nageur est venu me récupérer. Mes poumons se sont remplis d'eau, depuis je n'aime plus la piscine. Je me suis senti pas respecté.
En CE2, j'ai joué un classico CE2 contre ses mains. Après avoir mangé à la cantine, j'étais au goal, en position. On avait une soif de victoire incroyable. Cette fois, il fallait gagner. On ne pouvait pas perdre. Toute l'école nous regardait le match. L'adversaire était très fort. On perdait 3-0. On était dépités. On s'est réunis dans un coin. On s'est motivés et on a égalisé. Puis marqué. Juste avant la sonnerie, on a fait preuve d'esprit, d'équipe. On n'a pas eu peur, même s'il était plus grand. On a gardé espoir. On a réussi l'impossible.
En cinquième, j'ai perdu la finale de la Summer League, la coupe de foot organisée au collège. Les garçons de ma classe ont pleuré et j'ai eu honte. Maintenant, j'ai appris qu'il faut accepter de perdre et s'accrocher.
Merci Sadman, Velvin et Wissem. On écoute une chanson et on revient après. Restez à l'écoute.
Checking on the track.
On vient d'écouter une chanson de funk brésilienne. Place à Karim et Sheikh pour leur chronique.
Heureusement, le sport permet de cultiver l'esprit d'équipe, la solidarité, le déplacement de soi. Le samedi 25 novembre, la compagnie acrobatique de Tanger a fait un spectacle au chapiteau de la Villette. On est allé le voir, 460 personnes étaient présentes pour voir le spectacle FIC, qui signifie « Réveille-toi ». Les 15 jeunes acrobates viennent du Maroc. Ils s'appellent Atlanta, Samir, Hamza, Ahmad, Manon, Youssef, Yaya, Hassan, Bouchra, Ayoub, Zor, Elias, Ashraf, Jeba et Jean-Mario. Ils parlent arabe, anglais, français et espagnol. La traduction était projetée par des sous-titres. Le spectacle était très coloré, plein d'acrobaties. Par exemple, il y avait une moto qui roulait avec 7 personnes dessus. Il y avait aussi une personne qui en portait 5 tout seul. Il y avait un freestyler qui faisait des figures incroyables avec un ballon de foot.
Le message du spectacle était les inégalités entre les riches et les pauvres. On a aimé ce spectacle car c'était drôle. Par exemple, le moment où ils débattent sur les inégalités du monde et ils s'arrachent les micros parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais toutes ces inégalités, c'est en même temps triste.
Générique.
Le marathon radiophonique
de ma jeunesse, une fille.
Pour finir cette émission, nous vous faisons écouter l'interview qu'on en a faite avec Marie Fatou Gaye, qui est venue nous rencontrer au collège. Elle est journaliste sur Ben Sport et nous donne plein de conseils. Écoutez-la bien.
Bonjour Marie Fatou, bienvenue dans le collège Persémar. On va vous poser quelques questions sur votre parcours. Déjà, quelle étude avez-vous fait pour devenir journaliste?
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre collège. J'ai fait un parcours assez classique jusqu'au lycée, on va dire. Ensuite, je savais que je voulais être journaliste de sport, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai d'abord fait une licence en sciences politiques à Lyon. Pendant ma licence, la troisième année, je suis partie à l'étranger. Ensuite, je suis revenue. J'ai pris une année sabbatique où juste j'ai travaillé. J'étais vendeuse chez Gap. Voilà, il fallait juste que je fasse de l'argent parce que j'avais obtenu une bourse pour partir aux États-Unis et pour faire du basket là-bas et étudier là-bas. Et la bourse, ça s'est fait de manière hyper simple, hein, vraiment. J'étais en train de jouer au basket. Et une coéquipière qui m'a dit « Mais moi, je suis partie aux États-Unis grâce à une bourse. Je suis sûre que tu pourrais faire pareil. » Donc, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» Il fallait 3000 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé pendant un an. Alors, l'année à l'étranger, ça m'a permis aussi d'être complètement dans un nouvel environnement. Donc, c'était de l'étude, mais c'était moins lourd que la fac, aller en cours, parce que ça reste relou. Hein. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai vraiment vécu le rêve américain à fond. J'ai très peu joué, parce que, en fait, la concurrence, elle est très, très rude là-bas. Rien que sur la muscu, sur des trucs, les filles, elles étaient vraiment balèzes par rapport à moi. Donc, j'ai eu un peu un complexe au début, parce que je me disais, mais oh, wow, elles sont trop fortes. Je ne vais pas arriver à autant bien performer qu'elle. Et puis finalement, bah, ça s'est quand même bien passé. Je suis rentrée en France. J'ai joué un petit peu à la Courneuve, là, dans le 93. Et puis maintenant, là, je joue au Stade français à Porte de Saint-Cloud. Voilà. Et donc, ça, je l'ai fait. Ça s'est super bien passé. Je suis rentrée en France. Et là, j'ai fait une école de journaliste. Pendant 2 ans. Et puis après, j'ai pu faire un stage chez beIN Sports. Et puis après, voilà, j'ai intégré l'équipe.
Ok, très beau parcours. Est-ce que ça a été facile?
Non, c'est ce que je disais là juste avant. C'est long, quoi. Je suis un peu perfectionniste, donc j'avais envie d'avoir les meilleures notes possibles. Donc, je travaillais beaucoup. Donc, c'est beaucoup de temps à la bibliothèque, beaucoup de temps à travailler, beaucoup de sacrifices. Mais au final, je suis contente aujourd'hui d'avoir le métier que j'ai. Mais ça n'a pas été facile, non. Loin de là.
Ok. Est-ce que, genre, vous avez eu des moments difficiles à surmonter dans votre vie?
Oui. Je pense que comme toutes les personnes sur Terre, il y a des moments qui sont beaucoup plus durs que d'autres. J'ai perdu mon père à la fac, donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. en même temps que je faisais mes études, il fallait que je travaille aussi pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer ma nourriture, pour que je puisse aussi vivre, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était aussi très fatigant de cumuler le travail de la fac et le travail pour l'argent. Voilà.
Est-ce qu'il y avait des gens dans ta famille journaliste ?
Mon oncle était journaliste pour le journal à Saint-Étienne. Il était ce qu'on appelle pigiste. Peut-être que c'est lui qui m'a inspirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il était journaliste.
Pourquoi avez-vous choisi d'être un journaliste de sport ?
J'ai choisi d'être journaliste de sport parce que je faisais déjà beaucoup de sport et j'aimais bien regarder à la télé. Je me disais que ce serait cool de pouvoir parler de sport au quotidien. Parce que c'était déjà ma passion, donc je me disais, j'aurais même pas forcément l'impression de travailler. Et ma mère m'a beaucoup martelé pendant l'enfance de voilà, choisir un métier qui me plaît, un métier de passion.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est jamais la même chose. La base du sport, c'est qu'on sait jamais ce que va être le résultat, on sait jamais qui va gagner, on sait jamais qui va bien jouer, on sait jamais qui va exceller. C'est le fait que ça rassemble des gens, que ça rassemble des peuples, ça rassemble des communautés. Donc voilà ce qui me plaît le plus dans mon métier.
Pour quel média travaillez-vous ?
Je travaille pour Bein Sport.
Quelle est la rémunération d'un journaliste ?
Alors ça varie. Ça varie vraiment du SMIC de 1500 euros à 20, 30 000 euros. Ouais.
Voulez-vous toujours devenir pro ?
Alors, pour le coup, j'ai jamais voulu être pro. J'ai toujours voulu être journaliste parce que le gros problème du basket féminin, c'est que c'est très instable. À part si vous êtes en ligue, et j'avais pas le niveau pour être en ligue, bah, vous vous retrouvez un peu donc en Ligue 2 ou en National 1 à galérer, à aller de club en club, des fois à être mal payé ou à pas être payé. On va vous promettre des choses qu'on va pas pouvoir, que le club il va pas pouvoir en fait tenir. Et j'avais pas envie de prendre ce risque pour ma vie, puisqu'en plus, je savais que je voulais être journaliste, je savais que je pourrais continuer à jouer à un bon niveau. Donc, l'expérience aux États-Unis, limite, j'étais comme une pro et ça m'allait très bien parce que je continuais à étudier. Donc, comme très jeune, je suis allée dans des équipes professionnelles et que j'ai vu de mes propres yeux des filles courir après leur chèque pour être payées, des filles en galère, ne pas savoir où est-ce qu'on va être l'année d'après, etc. Ça m'a un petit peu écœurée, éloignée du projet, en fait.
Quel est votre meilleur souvenir du basket ?
Aux États-Unis, on est allé en finale, c'était à Las Vegas. C'était incroyable. On a perdu, après double prolongation, on a perdu d'un point. Donc, c'était très dur à vivre, mais l'expérience, elle était incroyable. On était en finale à Las Vegas. Voilà. C'est mes deux meilleurs souvenirs.
Et ton pire souvenir du basket ?
Ah ben les blessures. Les blessures, c'est toujours une galère. Après, t'en as pour un mois de galère. T'arrives pas à doucher, t'arrives pas à marcher, t'arrives pas... Tu peux pas jouer. Toute ton équipe, elle joue. Toi, t'es là, tu peux pas jouer, tu les regardes. Non, les blessures, c'est le pire. Et aux États-Unis aussi, j'arrivais pas à jouer, en fait. J'arrivais pas à me lâcher. Et ça, c'était hyper dur aussi à vivre parce que j'étais tétanisée par le fait d'être là. Donc, je faisais que cirer le banc. Je jouais pas, quoi. Le coach, il me faisait pas confiance parce que moi-même, j'avais pas forcément confiance en moi à ce moment-là.
Aimez-vous le basket féminin ?
Ah oui, j'adore. D'ailleurs, c'est un peu ma mission. La mission que je me suis mis en tête, c'est d'essayer de développer le basket féminin à travers les médias, donc à travers Bein Sport. Donc oui, j'adore. Je préfère d'ailleurs le basket féminin au basket masculin. Je pense que ça vient du fait que je suis une femme et que j'ai beaucoup suivi le basket féminin.
Pourquoi l'association Femmes Journalistes du Sport a-t-elle été créée ?
Alors, l'association, elle a été créée après un reportage qui a été diffusé sur Canal+. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle « Je suis journaliste, je ne suis pas une salope ». Qui est un documentaire qui était très fort, puisque en tant que journaliste de sport, parfois on peut être un peu, en tant que femme, on peut être on peut être carrément insultée parce qu'on est une femme. Parfois on est aussi juste critiquée parce que on a mis une certaine tenue, on a parlé d'une certaine manière, etc. Donc du coup, à la suite de ce documentaire qui avait fait beaucoup de bruit dans les médias et un peu aussi dans la société, Laurie Delostal et Mejdalen Miri ont décidé de créer une association des femmes journalistes de sport pour qu'il y ait une espèce de sororité, qu'on se retrouve toutes entre femmes journalistes de sport et qu'on puisse échanger sur les problématiques qu'on rencontre au travail, qu'est-ce qui est dur pour nous en tant que femmes, qu'est-ce qui est moins dur, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut négocier notre salaire, parce que comme dans toutes les strates de la société, on est moins payé que les hommes. Donc voilà, voilà pourquoi cette association a été créée.
Quelles sont les inégalités entre les hommes et les femmes dans les journalistes des sports ?
Les inégalités, c'est que parfois, il y a des chaînes qui vont... Alors, je parle surtout pour le milieu de la télé que je connais le mieux. Je sais que parfois, il y a des chaînes qui vont dire « Bon, on met une femme à l'antenne parce qu'il faut mettre une femme, parce que ça fait bien. » Donc, c'est un peu ce que le documentaire que je vous disais tout à l'heure, il avait essayé de dénoncer. C'est qu'il y avait un peu cet effet, parfois, plante verte. Les principales différences, maintenant, elles sont salariales. Et sur le fait qu'il y ait peu de femmes encore qui accèdent à... au poste de journaliste, mais c'est aussi, ça vient aussi du fait que les femmes ont tendance à penser que c'est pas forcément un métier auquel elles peuvent avoir accès. C'est pas un métier où elles se disent que il y a de la place pour elles. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec l'association, et c'est aussi ce que le message que j'ai envie de faire passer en étant ici. Hein, non seulement j'ai envie de vous transmettre ma passion du journalisme de sport, mais j'ai aussi envie d'interpeller les filles qui sont ici, dans cette classe, c'est que si vous aimez le sport, si vous avez envie de vivre de votre passion du sport, c'est un métier qui vous est accessible, c'est un métier que vous pouvez avoir et qui vous plaira, j'en suis sûre.
Vous êtes victime d'inégalités ?
Alors, le problème des inégalités de genre, du sexisme, on va dire, on va l'appeler, c'est que c'est un peu comme le racisme. Le problème, c'est que vous le voyez pas. Vous le savez pas, en fait. Si les gens, vous déposez votre CV, vous savez pas si l'employeur, il vous choisit pas parce que vous êtes une femme, il vous choisit pas parce que vous avez des origines africaines. Vous le savez pas, en fait. C'est un peu le côté pervers de ça. C'est que les gens, ils s'amusent pas à vous dire pleine tête... je veux pas parce que t'es une femme, je veux pas parce que t'es noire, je veux pas parce que t'es grande, je veux pas parce que t'as fait telle ou telle école. Juste, vous avez pas de réponse, vous avez une réponse négative. Peut-être que j'ai été victime, mais je le saurais peut-être jamais, ou je le saurais très tard, quoi.
Y avait-il eu du changement depuis la création de l'association ?
Alors oui, il y a eu un peu de changement, puisque... Déjà, l'association, elle a grandi. On a pu faire passer une charte pour une meilleure égalité des femmes et des hommes dans le métier de journaliste de sport. Je pense qu'il y a beaucoup moins de harcèlement aussi. On a créé aussi un groupe WhatsApp pour les emplois, pour aider, puisque c'est un métier qui est quand même très, très bouché. C'est très dur d'obtenir un poste. Donc, on a créé ce groupe pour permettre aux femmes de trouver plus facilement des postes. Donc, je pense que ça a aidé aussi beaucoup de filles à obtenir un poste plus durable.
Quel conseil donnerais-tu à une femme qui veut faire du basket ?
De s'accrocher, de rien lâcher, comme dans tout sport, en fait. Il va y avoir des moments plus durs, il va y avoir des moments très forts. Mais c'est un sport qui est incroyable, c'est un sport qui m'a permis d'aller aux États-Unis, c'est un sport qui m'a permis même... de rencontrer des gens que j'aurais pas forcément rencontrés, de vivre des moments que j'aurais pas forcément vécu. Donc ouais, c'est comme tous les sports, s'accrocher, tout donner, être passionné, et voilà.
Après la rencontre avec Marie Fatougaï, on a eu envie de faire le commentaire sportif de la Semar League, le tournoi de foot du collège.
Nous sommes en direct de la seconde édition de la Semar League. Le tournoi de foot du collège Pierre Sémar. On est le 22 novembre 2023 et nous sommes au gymnase GC Owens. C'est un tournoi de foot organisé par le CVC. Les vainqueurs gagneront un trophée. L'année dernière, c'est la classe 4e D qui a gagné la Sémar League. Aujourd'hui, deux classes de 4e s'affrontent. Pour le premier match, les 4e B affrontent la 4e C. L'équipe de la 4e B est composée de Ali au cage, Ismaël en défense, Kassa au milieu de terrain, Ilas et Jean en attaque et Ferdaous en défense. L'équipe de la 4MC est composée de Adam Okage, Fodé en défense, Précieux en défense, Myriam au milieu de terrain et Salah en attaque. Je vous laisse avec Ryan qui va commenter ce premier match.
Trop écrasé la frappe. Oh, Jusmaël, il n'y a personne en défense. Il n'y a que Adam. Adam, en 1v1 avec Jusmaël. Le tir, le bon arrêt de Ryan. Le dégagement de Adam. Mais le danger est toujours là. Le bon arrêt encore de Ryan. Quel bon gardien. Ah, Fodé qui va y aller tout seul. Encore une fois, qui va contre le ballon. Encore Fodé qui récupère le ballon devant la surface. Qui frappe le gardien. Non, c'est raté. C'est là. Oh non, c'est raté. C'est mis sur le poteau. Oh non. Oh, juste mal contre Adam. Bien joué. Quel raté. Il y a beaucoup de ratés. Ils sont pas très efficaces. Que ce soit la 4ème B ou la 4ème C, ils sont pas du tout efficaces. C'est joué vite avec Salah. Salah avec le ballon qui va tenter de dribbler. Il a raté son dribble. Ça part en touche. Faut jouer vite là. Il reste pas beaucoup de temps. Fodé qui a... On dirait qu'il a mal. Adam qui va jouer le 6 mètres. La touche. C'est bien le tir. Le bon contrôle de Salah. Salah qui perd le ballon. Oh, Ismaël qui prend le ballon. Il a le contrôle. Il est très très mauvais son contrôle. Attention, ça peut coûter cher tout ça. Le bon dégagement de Ferdaous. Touche pour la 4ème C sur le côté droit. Faut qu'il tente là. Même s'il est loin, faut qu'il fasse une transversale. Il fait une transversale. C'est contré par Kassa. Toujours touche pour la 4ème C. Adam qui va le retirer. Il a 4 secondes pour tirer. Faut qu'il se concentre. Le tir, c'est contré par Ismaël. La contre-attaque. Il laisse tout seul. S'il laisse la tête. Oh non, c'est trop fort. C'est le champ, le gardien. Ryan, quel ballon. Le gardien de l'équipe. L'équipe de la 4ème C. Tire devant. Oh non, c'est ma coupe. C'est ma tirée. La 4ème. Oh, Ismaël. Le but. Oh non. Le but de la 4ème B. Ils ont enfoncé le clou. 4-1. C'est la 4ème B marque des buts sur des erreurs de la 4ème C. C'est pas normal. Faut des très énervés qui enlèvent son pull. Salah. Oh non. Il voulait faire une Vinicius, mais il a pas réussi. Faut des quel ballon qui fait la passe à. Il combine avec Fodé. Fodé, Salah. Le but ou pas? Le but de Fodé. Doublé. Quel golasso de l'équipe de Fodé. Fin du match. 4-2, score final.
Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de notre émission. Restez branchés sur Radio Campus Paris.
Générique.
Le marathon radiophonique.
De ma jeunesse, une fille qui joue. C'est pas possible.
L'émission des 4ème F du collège Pierre Sémar.
L'équipe de la 4ème C. Tire devant. Non, c'est ma coupe. C'est ma tirée. Le but de la 4ème B. Ils ont enfoncé le clou. 4-1.
Coupé.